Vous êtes bien sur Aligre FM 93.1 dans La vie est un roman d'Yves Tanré, créateur et animateur de cette émission dont nous fêtons en ce moment ses 10 ans d'existence. Il n'échappera à personne que la voix que vous entendez n'est pas celle inimitable d'Yves Tanré, mais celle de son fidèle chroniqueur Frédéric Gournay, auteur de Métaphysique du rock. Yves, on sait que tu nous écoutes, sache qu'on pense à toi très fort, on espère te revoir très vite. Dans ce numéro de La vie est un roman, nous recevons Valentin Rey, auteur de La longue vie, paru aux éditions Gallimard dans la collection Aventure. Bonjour Valentin.
Bonjour Frédéric.
Alors, La longue vie est votre 5e roman, c'est ça?
C'est ça, oui.
Qui fait le récit du destin croisé, intimement lié à travers le temps, d'un biologiste, d'un prophète et d'un écrivain, tous trois en quête d'éternité. Comment vous est venue l'idée ou le désir d'un tel roman?
D'une expérience assez concrète, en fait. D'abord, écrire, aimer, accompagner les morts, ça a été l'occasion pour moi de faire une expérience du temps un peu différente de ce qu'on avait l'habitude de projeter dans le concept de temps, c'est-à-dire avec un passé, un présent, un futur, comme si dans ces moments, en fait, le temps était rassemblé en lui-même, indivisible. Alors j'ai voulu un peu creuser cette sensation et je suis allé voir un peu du côté de la physique et je me suis rendu compte qu'il existait en fait, que c'était même le concept le plus admis, une façon de voir le temps totalement différente de celle qu'on peut expérimenter d'ordinaire. Les physiciens appellent ça l'univers bloc, c'est-à-dire que en physique relativiste, donc ça vient de la théorie de la relativité d'Einstein, il y aurait un univers dans lequel tous les temps sont déjà accomplis. Donc j'ai voulu écrire le livre qui permettrait de faire l'expérience de cette simultanéité. Pas délivrer un message, hein, parce que les calculs scientifiques s'en chargent, mais faire cette expérience en tant qu'écrivain, bien sûr, mais en tant que lecteur aussi, pour que au terme du livre, on ait la sensation non pas d'un déroulé, mais d'un événement continu, d'un seul geste, en fait.
Que tout soit accompli, c'est aussi une pensée profondément religieuse,
mystique. Oui, bien sûr, c'est même la dernière parole du Christ sur la croix dans l'évangile de Saint Jean. Oui. Tout est accompli. Ça renvoie aussi à justement, puisque vous parliez d'un des personnages qui est un prophète, à une possibilité d'entrer justement dans cette simultanéité de tous les instants. Tout est accompli. Évidemment, c'est du point de vue du Nouveau Testament l'histoire religieuse qui est accomplie, mais aussi le temps lui-même, sachant que avec le Christ, il y aura mort et résurrection, et la résurrection, elle est par définition hors du temps.
Est-ce que vous pouvez nous en lire un passage, peut-être, pour commencer?
Oui, avec plaisir.
Donc, c'est le début du livre que vous allez nous lire.
Oui, le début du livre. Ouais. La vie m'avait déjà mené par des chemins étranges. Mais au début de l'automne 2022, alors que j'avançais dans ma 45e année, je me suis retrouvé à un nouveau carrefour. Le monde s'enfonçait dans le désastre le plus complet, comme il est naturel, comme il l'a toujours fait et comme il ne cessera probablement jamais de le faire. En France, les mois d'été avaient flambé à des températures caniculaires, et des feux de forêts épouvantables avaient carbonisé de vastes zones du territoire. D'autres pays européens avaient connu des phénomènes similaires. D'autres nations, sur d'autres continents, avaient connu des phénomènes similaires. La France était blessée, l'Europe était choquée, et le monde s'alarmait des cataclysmes encore à venir. Toutefois, à l'entrée de l'automne 2022, c'est une voie d'espérance qui s'est offerte à moi, et non une voie de crainte et d'anéantissement. On parlait d'apocalypse climatique, d'effondrement du vivant. On s'abîmait dans la hantise et pour certains dans la colère, mais moi, c'est un tout autre sentiment qui a commencé à m'animer. Lequel exactement? Je n'en suis pas très sûr, peut-être du détachement ou simplement de la confiance. En tout cas, l'angoisse obscure et oppressante, quasi métaphysique, qui était maintenant l'atmosphère des sociétés occidentales, j'en ai été délivré contre toute attente. Depuis quelque temps, les choses allaient pourtant dans le sens contraire. Arrivé à mi-course, et désormais dans la force de l'âge, comme on dit, j'avais été rattrapé par des problèmes familiaux, des problèmes ordinaires, en vérité, des problèmes très banals, mais dont le poids existentiel avait encore appesanti l'ambiance morbide et asphyxiante de l'époque. Car il ne suffit pas que nos oreilles soient saturées par le battage médiatique. Non, il faut encore que nos épaules soient écrasées par la chape des problèmes familiaux. En l'occurrence, des problèmes liés à l'âge, puisque j'avais atteint celui où les parents développent des maladies aussi vicieuses qu'invalidantes. On nous rabâche, jour après jour, qu'au rythme où la planète se réchauffe, des points de bascule climatique seront franchis dans quelques décennies, avec des résultats désastreux pour les populations du monde entier. Et moi, j'apprends au téléphone que mon père est atteint d'une maladie du sang, laquelle explique la thrombose dont il vient juste d'être victime. Dans le même genre d'idée, des experts nous assurent qu'à défaut de revoir en profondeur notre système de production, les calottes glaciaires disparaîtront, ainsi que la circulation océanique, entraînant d'autres ruptures fatidiques aux conséquences incalculables. Et moi, je visite ma grand-mère claquemurée à l'EHPAD et je la vois délirer, ne plus savoir qui je suis, tout occupée qu'elle se trouve désormais à rejoindre ces morts dont les photographies ornent les murs béjâtres de sa chambre. Mais les nouvelles fracassantes ne s'arrêtent pas en si bon chemin. L'avalanche continue. On nous répète à présent qu'une monstrueuse extinction de masse a commencé, des dizaines de milliers d'espèces s'éteignant chaque année. Et ma mère, de son côté, fait une chute de vélo parce que certains cristaux de l'oreille interne, absolument nécessaires à l'équilibration, se sont soudain détachés, provoquant un étourdissement qui a lui-même été la cause d'un accident de la circulation assez grave. Puis, sur un autre registre, on nous serine avec les guerres, les famines, les migrations et les épidémies qu'occasionneront par la force des choses tout le bouleversement que je viens d'évoquer. Et c'en est déjà trop. Je me sens harcelé, la coupe déborde malgré moi, car je m'éveille au milieu de la nuit avec un acouphène dans l'oreille droite, une stridence obsédante qui aurait dû me rendre fou si elle n'avait pas disparu le 30 septembre exactement, après 5 mois d'agitation et de tourmente.
Merci Valentin Rey, vous nous avez lu le début de votre dernier roman, La longue vie, paru aux éditions Gallimard dans les collections Aventure. On l'a un peu évoqué, mais on va y revenir un peu plus précisément. Quelle différence vous faites entre l'auteur, le narrateur et le personnage principal ? S'il y en a une.
Oui, il y en a une, bien sûr. L'auteur, eh bien, c'est celui qui écrit le livre, par définition. Le narrateur, c'est celui qui assume la charge de la narration, c'est-à-dire le poids de la parole dans le livre, l'entrée en fait de la subjectivité du lecteur dans le livre. Et il écrit depuis la fin de l'histoire. Donc d'une certaine manière, il a déjà en tête tout le déroulé, tout ce qui s'est passé. En fait, il est le personnage dont il va rendre compte, mais à la fin de son aventure. Donc le personnage principal, c'est celui que le narrateur met en place depuis ce point focal qui est l'après de l'histoire. Et il y a une jonction entre, puisque c'est une forme, disons, de mise en abîme du narrateur et de l'auteur, donc il y a une jonction entre le personnage, le narrateur et l'auteur, qui sont en définitive 3 moments du temps qui se retrouvent unis dans la parole qui va se déployer, celle du roman.
Oui, vous n'avez pas seulement cherché à abolir les frontières du temps, vous avez essayé aussi d'abolir les frontières narratives. Quelle différence vous faites entre l'écriture et les écritures, entre l'écriture, la parole et le verbe ?
Très bonne question, très compliquée.
On a le temps.
On a le temps, oui. L'écriture, la parole et le verbe. L'écriture, c'est celle qu'on essaye de déployer dans le roman, celle qui est ciselée, qui permet de rentrer dans sa chambre intérieure. La parole, pour moi, c'est quelque chose de plus profond, quelque chose de plus fondamental. C'est le registre vibratoire, en fait, qui structure le réel. Alors, beaucoup de traditions ont évoqué ça, notamment les traditions hindoues. Dans les traditions hindoues, que ce soit dans le shivaïsme par exemple ou dans le Vedanta, on a cette idée qu'il y a plusieurs types de paroles. Il y a une parole qu'on dit communicante, C'est celle avec laquelle on échange le tout venant. Et puis une parole qui est liée aux moyens de connaissance. Les moyens de connaissance, ce sont les mots qu'on emploie, tout simplement, les verbes. Voilà. Ce qui permet en fait d'extraire avec un mot quelque chose de particulier dans la continuité du réel. Et puis il y a ce qu'on appelle la parole voyante. La parole voyante, elle renvoie en fait à la subjectivité du sujet. C'est le sujet qui articule en fait les moyens de connaissance qui lui permettent d'agir ou de communiquer dans le monde. Et puis il y a ce qu'ils appellent la parole suprême. C'est en retrait. Et si on devait la définir, on pourrait dire que c'est une chose qu'on ne discute pas et qu'on questionne peu lorsqu'on se lève. On est face à soi, on se regarde dans la glace, on a le sentiment d'exister et on ne le questionne pas. Mais tout fait fond en fait sur ce sentiment d'exister. Et c'est ça la parole voyante. Et cette parole voyante dans l'hindouisme, c'est ce qui permet de reconnaître que toute chose en fait est le Dieu qui fait émaner cette parole voyante et qui construit, structure le réel. Alors, sur le plan vibratoire, parce qu'ils ont des techniques en fait de vibration qui permettent de retourner à ce plan de parole, on peut faire l'expérience en fait d'une profondeur du réel qui est articulée au-delà de la matière sur un plan énergétique en fait. Bon, ça renvoie aussi à ce que dit la physique hein, à travers la théorie de la relativité où toute matière a son équivalent énergétique. Et les écritures, c'était ça la parole, l'écriture et les écritures.
Et le verbe.
Et le verbe. Et le verbe, ce serait, si on l'emploie avec donc un V majuscule, c'est ça?
Oui.
Ouais. Le verbe, ça renvoie à quelque chose de très situé, en fait, c'est la théologie chrétienne hein, ou le logos philosophique. C'est quelque chose qui s'apparenterait à la parole avec un grand P, c'est-à-dire c'est la façon dont la raison du monde articule tous les éléments constituants de ce monde et de ce réel. Et en fait, si on devait trouver une fractale en fait, qui est vraie à chacun des éléments, avec chacun des éléments de ce monde et à chacun des niveaux de ce monde, ce serait le verbe. Donc après, dans les Écritures, il y a une théologie voilà, du verbe incarné. Donc c'est cette idée, cette raison du monde qui vient dans un corps et qui annonce en fait la raison du monde à travers sa prédication. Ça, ce seraient les quatre niveaux de parole qu'on pourrait articuler.
C'est un peu ça que vous avez cherché à retrouver, à relier dans votre roman?
Alors dans le roman, parce que là on a été très théorique, hein, si on est tout de suite emblée rentré sur des questions de fond, évidemment on ne parle pas de ça de cette manière-là. Il s'agit en fait de vivre des expériences. Et pour vous parliez des trois personnages, je pense que pour donner à comprendre en fait comment ces expériences se déploient, il faut voir que le narrateur travaille sur un bouquin qui est focalisé autour des avancées biotechnologiques. Aujourd'hui, par exemple, on peut, à travers ce qu'on appelle la reprogrammation cellulaire, espérer pouvoir rajeunir des hommes qui ont 50 ans, des femmes qui ont 50 ans, et en faire des jeunes hommes, des jeunes femmes de 20 ans, d'ici à une dizaine d'années. En tout cas, c'est ce qu'espèrent les gens qui travaillent là-dessus. Donc il s'agit d'imaginer un personnage, voilà, Nicopole, qui prendrait en charge cette espérance-là et qui ferait des découvertes majeures dans ce domaine. Il se trouve que ce personnage-là, on va lui proposer en fait de mener un projet, le projet Éternité, et il va accepter. Or sa femme, qui est une économiste, une anthropologue, est tout à fait contre en fait le fait qu'il offre ses compétences et ses découvertes scientifiques à un pool de milliardaires qui vont confisquer la vie éternelle en fait. Donc elle lui fait une scène énorme, lui est furieux parce qu'elle lui propose d'abandonner sa carrière, donc il prend sa Tesla, il s'en va en voiture et furieux, moins attentif à la route, et il renverse une personne. Il va voir cette personne qui, on va l'apprendre, va tomber dans le coma à cause de l'accident. Et il est totalement désarçonné parce que, en fait, cette personne lui ressemble trait pour trait, mais avec 30 ans de moins. C'est comme s'il s'était injecté à lui-même, en fait, son propre protocole de reprogrammation cellulaire. Et c'est là il y a un jeu de double, c'est là pour lui l'occasion d'une désappropriation, c'est la continuité en fait de son expérience, du réel, de son soi, de sa présence à lui-même, d'un coup est fissurée. Et le soir, il va faire un rêve, et ce rêve va le mettre en présence d'un autre personnage qui s'appelle Apollos, qui est un juif de langue grecque, qui vient de la lointaine Alexandrie, et qui, après l'occasion d'un pèlerinage, donc il vit au 1er siècle, d'un pèlerinage au temple de Jérusalem, va finalement décider d'aller voir Jean le Baptiste, qui prophétise sur les rives du Jourdain, qui annonce un baptême de conversion. Et il va vivre une expérience, il va l'écouter toute la journée, et à la fin de la journée, le prophète vient le voir, et lui demande de le suivre, et il le suit, il lui reparle une deuxième fois en araméen, et là il entend l'araméen, et il se rend compte en fait que pendant toute la journée il a écouté ce prophète parler en araméen, et que lui qui ne connaît que le grec a compris ou a halluciné ce qu'il disait. Et donc voilà, il y a un emboîtement en fait, c'est-à-dire que tout se passe dans le livre que le narrateur écrit. Il écrit une histoire sur Nicopole le scientifique, le scientifique lui rêve de ce prophète juif Apollos. Or, le narrateur, lorsque il écrit, il est comme rapté, il est pris hors de lui-même, il entend une voix en fait qui vient de l'intérieur de lui-même, il écrit sous la dictée, et c'est comme s'il était projeté à l'intérieur de l'espace-temps des deux personnages de papier, normalement, qui sont des personnages que lui doit inventer, mais qui lui échappent absolument. Il relit ses propres notes. Il n'y a aucune rature, il a écrit de façon très lisible et très claire, sans hésitation, comme si il était le réceptacle d'une inspiration qui lui serait envoyée par les muses.
C'est toujours sur Aligre FM 93.1 en présence de Valentin Rey qui nous parle de son dernier roman, La longue vie, paru aux éditions Gallimard. Qu'est-ce que l'inspiration pour vous ?
L'inspiration.
Avez-vous été vous-même inspiré de manière saisissante pour ce livre ou...
Ah oui, je crois, oui, bien sûr. Oui. Oui, oui.
C'est une... Vous avez entendu des voix, vous avez reçu des messages.
J'entends des voix depuis longtemps, oui. Oui, oui. Et on reçoit des messages, vraiment, oui. Alors, je vais m'expliquer parce que ça pourrait paraître un peu fou comme ça, mais... Quand on est pris, enfin moi, en tout cas c'est l'expérience que je fais, quand je suis pris dans le mouvement de l'écriture, c'est comme si tout le réel vous parlait. Je parlais tout à l'heure de la parole vibratoire en fait, qui structure en sous-main le réel. Je pense que le langage qu'on emploie, nous, il est comme un miroir en fait, de cette parole-là. Et quand on entre dans quelque chose de resserré, de condensé dans l'activité de l'écriture, il y a un jeu en fait de reflets entre la parole vibratoire profonde du réel et la parole que l'on emploie pour réfléchir, pour condenser justement son énergie spirituelle et artistique. Et à partir de là, tout fait sens en fait, tout vous sourit. Des mots vous sont envoyés, des expériences vous sont données, des rencontres sont faites, et le livre en fait se construit à partir de cet échange, de cette respiration entre les deux paroles, de ce renvoi de reflets entre les deux paroles. Et donc il y a une inspiration qui vient parce que on est comme amené d'une expérience à une autre, amené d'une idée à une autre. Et ça peut prendre parfois même la forme d'une voix très claire qui vient et qui vous propose voilà, tel segment de phrase, tel paragraphe.
On va marquer une première pause musicale. On va écouter Tronkigi et après vous nous direz pourquoi vous avez choisi ce morceau.
Oui.
Welcome to Sagatron. Drowning in the past, let's see.
Vous êtes bien sûr à Ligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman, en présence de Valentin Rey qui nous parle de son dernier livre qui s'intitule La longue vie, paru aux éditions Gallimard dans la collection Aventure. Valentin Rey, pourquoi ce morceau? Pourquoi cet artiste?
C'est un artiste que j'aime beaucoup, qui me détend, que j'ai écouté énormément il y a quelques années, que j'écoute un peu moins aujourd'hui. Qui est néo-zélandais, je crois, qui a été élevé avec les Maoris, qui a une densité spirituelle très étonnante. Je crois qu'il s'est fixé pour projet, au cours des 10 dernières années, de faire un album par an, dans un style différent à chaque fois. Et je l'ai un peu suivi sur ce projet, et il est assez remarquable à chaque fois. Je ne dirais pas que c'est un génie universel, mais il arrive à transmettre à chaque fois comme ça cette densité spirituelle et cette façon assez tranquille et douce d'habiter le réel. Et moi, c'est une chose que j'ai envie de rejoindre, cette douceur et cette tranquillité.
Alors ça sonne, pour ce morceau-là en tout cas, ça sonne un peu vieux, ça sonne très Curtis Mayfield, Sly Stone.
Complètement.
Ça fait presque passéiste comme démarche musicale. Vous écoutez la musique actuelle, du rap, de la techno
Pas de rap, mais de la techno, ouais. Ouais. Surtout, j'en ai beaucoup écouté, beaucoup d'électro, beaucoup de techno, il y a quelques années, disons.
Alors, on va revenir à votre roman. Est-ce que le temps est vraiment une prison, un cachot? Est-ce qu'on ne pourrait pas reprocher à votre personnage et à ses deux alter-ego d'être gagné, comme le dirait Nietzsche, par un ressentiment contre le temps et son il-était?
Bien sûr. Je ne crois pas qu'on pourrait le dire parce que, justement, il s'agit de faire l'expérience du fait qu'il n'y a pas de il-était. C'est-à-dire que tous les moments du temps sont présents, coextensifs et simultanés. Donc à partir de là, en fait, c'est la structure passé, présent, futur qui est fautive. On en a besoin parce que c'est celle-ci qui structure le langage. Mais de la même manière qu'on croyait que la Terre était plate parce qu'on allait toujours tout droit et qu'on n'avait pas une vision de la courbure, bah de la même manière, on n'a pas une vision de la courbure du temps. Et en fait, le temps se reboucle sur lui-même. Et donc, il n'y a pas de « il était ». Donc, il n'y a pas de ressentiment possible. À partir du moment où on fait justement cette expérience de simultanéité des moments, on peut rentrer dans quelque chose d'assez nouveau, en fait. D'ailleurs, qui renvoie à Nietzsche, puisque vous le citiez, puisque lui, avec son concept d'éternel retour, il avait établi ce critère moral, en fait, qu'il fallait dire oui à chacun des instants de sa vie. Et d'une certaine manière, si la vie que nous vivons, ben, les instants futurs sont déjà accomplis, donc toute notre vie entière est déjà accomplie, et on pourrait dire que nous la vivons pour que chacun des instants soit vraiment le nôtre, pour que toute cette vie soit vraiment la nôtre, pour qu'on ait une pleine approbation en fait de cette vie. Donc ça rejoint en fait le critère nietzschéen d'aimer et de dire oui à chacun des moments de l'existence.
Oui, mais l'unicité du temps, son irréversibilité, ne fait-elle pas toute sa richesse? Ce moment, par exemple, que nous passons ensemble, le fait de savoir qu'il ne reviendra pas, qui ne pourra pas revenir, ne nous invite-t-il pas à en goûter, à en savourer chaque instant comme présent, au double sens de ce qui est là et de ce qui est donné, ce qui est offert?
Bien sûr, si, mais c'est pas contradictoire.
Alors en quoi c'est pas contradictoire?
Mais parce qu'il n'y a que des présents, donc chaque instant est préservé dans son présent, mais ça n'implique pas que la liberté soit gommée. Je prendrais par exemple disons l'exemple de mon fils qui est assez gourmand. Si je mets un paquet de bonbons sur la table, je sais que si je m'en vais de la pièce, il va passer et en prendre un. Mais en même temps, sa liberté ne sera pas gommée, c'est-à-dire qu'il en prendra un librement. Et de la même manière, en fait, les instants que nous vivons sont l'expression de notre liberté, des choix que nous voulons assumer, des vérités qui nous habitent, des émotions qui comptent pour nous. Et le fait qu'elle soit préservée dans un bloc de temps, pour toujours d'une certaine manière, que si on fait cette expérience en fait, de la simultanéité des temps, on accède à l'éternité en fait, qui est la préservation de tous ces instants, eh bien, ça rend la chose plutôt joyeuse, je trouve.
Sachant qu'on ne peut pas revenir en arrière pour changer les choses qui ont été faites par le passé, ça c'est une chose importante.
On ne peut pas revenir en arrière, mais pourquoi le voudrait-on?
Pour changer nos fautes ou nos erreurs ou...
Eh ben alors, s'il s'agit de changer les choses, il y a une possibilité qui est ouverte, c'est d'aller vers l'avenir. L'avenir, c'est justement la possibilité de ne pas laisser au passé, si on reste dans ces catégories-là, l'occasion d'être un ressentiment. Mettons quelqu'un qui a un accident grave, il peut ressasser sans cesse le moment de l'accident, mais ça ne changera rien à l'accident. En revanche, à partir de la nouvelle personne qu'il est, il peut s'ouvrir une autre perspective. Et cette perspective-là, peut-être, elle sera l'occasion de nouvelles richesses, de nouveaux accomplissements qui n'auraient pas été possibles en fait, sans les blessures du passé. Donc, ce qu'il s'agit, à mon avis, c'est de réouvrir le passé au temps et justement de ne pas le laisser se fermer sur lui-même.
Pensez-vous que l'écrivain a réellement le pouvoir de se ressusciter lui-même? Vous savez, les écrivains sont des voix qui résistent à la mort.
Alors, se ressusciter lui-même, je ne crois pas. Mais en revanche, d'habiter ce qui est éternel dans le temps, oui. Et c'est pour ça que je n'ai pas dit que... Enfin, la phrase porte sur la voix, et la voix comme organe de la phonation, et donc comme élément de l'articulation du langage, et d'entrée dans la parole. Cette parole-là, elle est ce qui préserve la voix de l'écrivain, et qui lui permet de passer d'un âge à un autre. Mettons le premier texte que nous connaissions, qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh. Il s'agit d'aller à l'autre bout du monde, de cueillir la plante qui permettra d'obtenir la vie sans fin. il y a bien eu des mythes et il y a bien eu des histoires avant qui étaient véhiculées, mais elles n'étaient pas conservées par écrit, donc on ne les connaît pas. Mais dès le départ, en fait, c'est la grande question, la vie sans fin. Et il y a une intimité, alors de quelle nature exactement, je ne saurais peut-être pas l'expliciter jusqu'au bout, mais il y a une intimité entre la parole, le fait d'écrire et le fait d'être préservé de ce qu'on pourrait appeler le passage du temps communément.
Ouais, vous semblez sanctifier l'écriture, en faire le lieu privilégié d'une révélation. Mais si on réfléchit, Socrate n'a rien écrit, Lao Tzu n'a rien écrit, Bouddha n'a rien écrit, Jésus n'a rien écrit, si ce n'est dans le sable, Lacan n'a rien écrit.
C'est vrai, mais d'autres ont écrit pour eux.
Oui.
Platon sans Socrate, peut-être...
Socrate sans Platon.
Ouais, Socrate sans Platon, peut-être que nous ne serions pas aussi au clair avec lui. Pareil, Bouddha, les enseignements ont été recueillis par ses disciples.
Longtemps après.
Bah, il les a longtemps après. Enfin, déjà dès les premières générations, quand même, ils étaient transmis. Donc après, ils ont été fixés. Mais voilà, il y avait les enseignements. Pour le Christ, c'est pareil. Hein, il y avait des enseignements. Les premiers textes ont dû arriver, je pense. Les premières lettres de Paul, je crois, c'est une vingtaine d'années après. Et puis les premiers évangiles, 30 ans ou 40 ans après. Donc ils ont été l'occasion de construction de traditions. Ces traditions se sont agglomérées et à un moment donné, on a voulu les fixer par écrit. Mais tout ça, c'est de la parole, de toute façon.
Vous connaissez le Phèdre de Platon,
oui.
qui considère que l'écriture peut être un danger, un obstacle.
Bien sûr,
ça
oui.
peut nous empêcher d'incarner...
Bien sûr.
Ce qu'on doit être. C'est-à-dire qu'on lit et on écrit plutôt que d'agir.
Bien sûr.
Je résume.
Bien sûr. Mais comme vous le disiez, on ne va pas tomber dans le ressentiment par rapport à son « il était ». Donc le choix a été fait pour nous il y a déjà plus de 2500 ans à propos de l'écriture. C'est intéressant d'ailleurs. Chez les Indiens aussi, il y avait une forte valorisation de la culture orale. Chez les Juifs aussi, par exemple, ce qu'on appelle le Talmud, c'est à l'origine... la loi orale, c'est-à-dire la façon dont on va expliciter la Torah, et à travers les différents cataclysmes de l'histoire juive, il a été décidé en fait de la fixer par écrit. Bon, pareil pour dans la tradition hindoue, et quelque chose d'assez similaire dans la tradition occidentale. Aujourd'hui, je trouve d'ailleurs qu'on vit un peu un moment similaire, c'est-à-dire qu'on est un peu en train de passer dans une culture orale, à travers les intelligences artificielles, l'accès au savoir instantané. C'est comme si on externalisait notre mémoire. Et est-ce que c'est vraiment possible d'aller à l'encontre de cela? Je ne crois pas, ni aujourd'hui, ni hier en fait. Simplement, c'est des registres de la parole qui se déploient à travers l'histoire. Et... un registre ou un autre, ça permet d'atteindre ce point d'immortalité dans la parole, où les voix sont préservées, je crois. Et d'une certaine manière, si on a parlé en vérité, si on a écrit sans faux semblant, si on a vécu en fonction de ce qu'on croyait juste, on est préservé, je pense.
Parce que chez beaucoup de mystiques, dans beaucoup de religions, c'est l'exemplarité qui doit enseigner, non pas la parole.
Bien sûr, oui.
Donc, notre époque n'a-t-elle pas échangé la religion contre l'art et pris les artistes pour des sauveurs, ou en tout cas des oracles, des prophètes?
Ah bah complètement, c'est même le projet nietzschéen déjà, mais le projet qui s'est déployé à travers tout le XXe siècle, à travers les avant-gardes, bien sûr, oui. S'il y a eu ce grand cataclysme, la Révolution française, qui a d'une certaine manière décapité le divin, puisque c'était un roi tout à fait spécial qui a été guillotiné. Un roi qui était de droit divin, mais qui avait architecturé en fait toute sa législation autour de ça. Donc à partir du moment où le roi ne fait plus l'intermédiaire entre le ciel et la terre, il y a un vide énorme. Hein. Donc ce vide, il a été habité par les artistes qui ont essayé de donner un sacré de substitution. Ça commence déjà avec Mallarmé, et puis ça se poursuit à travers les avant-gardes et le mouvement révolutionnaire dans les arts. Aujourd'hui... le vide s'accroît, même, je dirais, l'esprit du vide continue, et les artistes n'arrivent pas à forcément empêcher son avancée. Mais il y a une vraie proposition, la littérature est une forme de spiritualité, elle est une voie spirituelle à part entière. Elle amène à faire la découverte de cette chambre intérieure que j'évoquais au début de l'entretien, à partir duquel, à partir de laquelle, on peut faire l'expérience, peut-être justement, soit de la parole, soit de l'esprit au sens spirituel, même celui que Mitterrand évoquait quand il disait, je crois, aux forces de l'esprit. Voilà, les puissances d'accomplissement anthropologique qui traversent l'histoire de l'homme.
La beauté sauvera le monde, c'est ce qu'on entend souvent de la part des critiques désarmés ou désemparés face à la question du mal.
Ouais.
Vous croyez à cette phrase de Dostoïevski ?
Oui, parce que je pense qu'elle sauve, pour celui qui est capable de regarder la beauté, de la voir, elle déplace son regard. Donc, d'une certaine manière, la lumière d'un salut le pénètre. Le fait d'être emprisonné quelque part n'est pas nécessairement lié à des conditions matérielles, il est lié aussi à un assentiment intérieur. Donc à partir du moment où un éclat de ce qui est libre et inatteignable eh bien, nous parvient et qu'on arrive à le recueillir en soi, donc une forme de salut nous touche, oui.
Alors, il faut préciser que cette phrase de Dostoïevski est tirée de l'Idiot, et il s'agit en fait de la beauté du Christ. Voilà. Alors des trois personnages qui désirent la vie éternelle, il y en a un seul qui est prêt au sacrifice et au martyre.
Un seul, oui. Il s'agit d'Apollos, qui n'y est pas spécialement préparé, mais qui va s'y résigner, puisqu'au départ c'est un disciple de Jean le Baptiste. Et il se trouve qu'il y a de grandes chances aussi que le Christ, donc Jésus de Nazareth, soit passé par la case de Jean le Baptiste, qu'il l'ait suivi. Là, je parle, historiquement, c'est à partir de la critique historique, c'est les choses qu'on arrive un peu à recomposer aujourd'hui. Alors, peut-être n'est-il resté que quelques mois, peut-être une année ou deux. En tout cas, le fait qu'il reprenne à son compte l'idée du baptême, ça prouverait qu'il a été initié, en fait, à la prédication de Jean le Baptiste. Et Apollos, lui, donc reste plus longtemps, c'est un des fidèles. Le livre s'ouvre sur le moment où il va chercher le corps de son maître, qui a été décapité par Hérode Antipas, qu'il a emprisonné à la forteresse de Machéronte, parce que l'homme a un pouvoir de nuisance politique trop grand et qu'il a peur, en fait, qu'il fomente une rébellion, puisque tout le monde commence à le suivre. Et donc, il se fait exécuter, et il vient chercher le cadavre de son maître, et on met la tête d'un côté de la mule et le corps de l'autre. La tête est restée avec Hérode Antipas, mais on met le corps du maître sur la mule, et il se rend compte lorsqu'on l'emporte que le point d'équilibre a changé. Or ça lui rappelle une prophétie, en fait, que Jean-Baptiste a faite après qu'il ait envoyé justement Apollos en ambassade auprès du Christ, puisque le Christ à ce moment-là annonce des choses qui sont en opposition avec Jean le Baptiste. Jean-Baptiste, lui, il a annoncé le fait que si le peuple d'Israël ne se repent pas et ne suit pas le baptême de conversion, le peuple sera éradiqué, en fait. Il y aura une grande catastrophe qui s'abattra sur eux. Et donc pour ça, il faut faire amende honorable, pénitence, rendre les biens qu'on a volés, produire les sacrifices au temple qui sont nécessaires. Et lui, le Christ, il annonce que tout ça n'est pas nécessaire, il suffit simplement de le suivre. Alors il est choqué, donc il se demande vraiment si celui qui l'a reconnu, c'était vraiment celui qui doit venir. Donc il envoie une ambassade pour être sûr. Et le Christ répond avec une menace assez à peine voilée, où il dit voilà, les aveugles voient, les sourds entendent, les boiteux marchent et les morts ressuscitent. Et il finit comme ça: Malheur à celui pour qui je serai une occasion de chute. Autant vous dire que c'est adressé directement à Jean-Baptiste. Si tu n'as pas la capacité de voir en fait que ce que tu as annoncé s'accomplit là maintenant, alors malheur à toi. Et quand il entend cette parole, le Jean-Baptiste, il prophétise ainsi, il dit, alors il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Et à ce moment-là, lorsqu'il voit donc le cadavre de son maître avec une tête en moins, il se dit, mais cette parole est accomplie en fait. Il a diminué et l'autre a cru. Et donc, il va se mettre à la suite du Christ, il va le suivre, et de fil en aiguille, bien qu'il reste avec une certaine distance, lorsque la nouvelle de la résurrection sera annoncée un peu partout, il décidera d'être l'un de ses porteurs et d'annoncer en fait la mort et la résurrection du Messie Israël, malgré le fait que toutes les autorités vont lui tomber dessus. Et d'ailleurs, ça ne va pas louper, il va être emprisonné à Laodicée, il va subir un supplice, mais il arrivera à s'échapper de la prison.
Vous êtes toujours sur Aligre FM dans La vie est un roman, en présence de Valentin Rey qui nous parle de La longue vie, son dernier roman paru aux éditions Gallimard dans les collections Aventure. On va marquer une seconde pause musicale, on va écouter Mac Future. Toujours sur Aligre FM 93.1 dans l'émission La vie est un roman avec Valentin qui nous parle de son roman La longue vie paru édition Gallimard dans les collections Aventure. Valentin, pourquoi ce morceau de Max Futur.
J'adore.
Je me doute, mais est-ce qu'il y a un rapport avec le roman ou pas du tout?
Non. Non, je crois que
Parce que le nom, je croyais déjà.
Non, j'ai plutôt écouté celui-ci. Si, remarque, oui, au début du livre, quand je le concevais, oui. Oui, si, si. Non, ça me fait rentrer dans une rêverie toujours, et je l'écoute très fort, et ça crée une profondeur sonore qui me met à l'aise.
Là encore, ça sonne un peu passé quand même, comme orchestration, arrangement, c'est très soul.
Ouais, R&B, c'est un peu électro quand même.
Ouais, oui, sur les arrangements. Mais ouais. Ouais. Alors, on a parlé de votre roman qui mélange le passé, le présent et le futur, et qui nous invite à reconsidérer l'ordre dans lequel on a l'habitude de le mettre. Que ces trois temps puissent coexister, qu'on puisse voyager à travers eux en quelque sorte. Est-ce que c'est pas se prendre pour Dieu? Parce qu'après tout, il n'y a que dans l'esprit de Dieu que tout est accompli.
Il n'y a que dans l'esprit de Dieu que tout est accompli, mais Dieu peut envoyer son esprit pour qu'on voyage avec lui. Donc après tout, on peut faire l'expérience de cet accomplissement, pourquoi pas.
Et ces moments de réception, d'accueil, d'inspiration, est-ce qu'on peut encore les avoir dans notre époque?
Ah, je pense, plus que jamais, je dirais. Je pense que l'ouverture n'a jamais été aussi béante. Pour une raison simple, c'est que les formes traditionnelles, en fait, d'une certaine manière, sont soit abandonnées, soit démonétisées. Donc, l'esprit n'est pas véritablement formé, ni n'a pas d'attente spéciale. Donc, on peut faire une expérience de cette ouverture beaucoup plus facilement. Après, il faut faire le travail. C'est sûr qu'on est obligé de se mettre en rapport avec différentes sources et puis de se mettre en recherche. Mais
c'est quand même, ça se passe souvent dans la solitude et le silence. Et on est dans une époque qui ne tolère plus ces deux choses-là.
C'est vrai, ça bien sûr, oui, ça c'est très difficile. Mais il y a toujours la possibilité de se recueillir et de se mettre au silence. Même si ce ne sera pas dans un café, ce ne sera pas dans un espace public, ce ne sera pas même chez soi, parce que parfois on est attaqué par les marteaux-piqueurs et les travaux des voisins. Mais on peut toujours trouver en fait, des lieux de recueillement.
Je pensais plus au téléphone portable et aux réseaux sociaux.
Alors,
qui gagnent complètement, qui conquièrent tout accès, toute concentration, toute sensibilité.
Alors je parlais de faire le travail nécessaire et je parlais du fait que c'était ouvert comme jamais parce que d'une certaine manière c'est fermé comme jamais et c'est la contrepartie de la fermeture en fait, la grande ouverture. C'est-à-dire qu'effectivement si on reste à raisonner par son téléphone portable, si on est totalement diverti par telle ou telle série et qu'on est l'esclave de ses notifications, bah, rien ne sera possible. Mais puisque tout est fermé d'une certaine manière, eh bien, tout est ouvert aussi, c'est la contrepartie. Et donc en fait, si on fait le travail, si on se recueille, si on prend connaissance du savoir spirituel qui a été accumulé à travers l'histoire de l'humanité et qui est disponible comme jamais, parce qu'il faut savoir qu'il y a encore, je ne sais pas moi, 150 ans, les traités qu'on trouve facilement ici ou là étaient inaccessibles, conservés dans un ou deux monastères ou dans je ne sais quelle grotte. Là, tout est à la disposition. Donc jamais l'accès n'a été aussi simple. Mais il faut pouvoir faire ce premier mouvement d'arrachement. Et si on fait, alors ça c'est mon expérience personnelle, hein, mais c'est aussi ma conviction, c'est si on fait un pas vers ça, l'ouverture viendra d'autant vers nous, au minimum, voire 10 pas.
Il suffit de frapper, on va nous ouvrir.
Oui, précisément.
Alors on ne sait plus écrire sur l'amour, vraiment? C'est un autre personnage qui dit ça.
Oui, il y a un des personnages qui a une théorie étrange sur l'amour et la littérature française. Il s'agit de... Pour lui, en fait, la littérature française est un miroir prophétique de l'amour et qu'elle rend compte, en fait, du refroidissement de l'amour. Alors, ça renvoie à une parole évangélique où il est dit qu'en ce temps-là, donc le mal s'étendra sur la terre, il prospérera, parce que l'amour refroidira. Et pour ce personnage, en fait, la littérature française est le lieu témoignage du refroidissement de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire quand il dit ça? Il dit que, en gros, de Guillaume d'Orange jusqu'à Houellebecq, en gros, il y a un refroidissement de l'amour, mais comme la matière, par exemple, qui passe du plasma à l'état gazeux, du gazeux à l'état liquide, du liquide à l'état solide, ben c'est pareil, on passerait d'un plan avec les troubadours, qui serait celui du mysticisme érotique, à un plan qui serait donc plus simplement spirituel, et puis à un plan qui serait plus simplement psychologique, puis un plan qui serait plus simplement matériel. Alors voilà, le roman psychologique, ce serait Madame de Lafayette, le roman plus simplement matériel, érotique, ce serait Les Libertins du 18e ou du 19e. Et puis, on dégringolerait à notre époque dans le pornographique. Voilà. Et, alors il prend l'exemple du dernier livre d'un des derniers livres de Houellebecq, qui s'appelle Quelques mois dans ma vie, et qui relate l'expérience qu'a fait Michel Houellebecq quand il a tourné un film pornographique. Il a même cette petite phrase, puisqu'il appelle la personne avec laquelle il va tourner ce film, il est dans un fort ressentiment par rapport avec elle, il l'appelle la truie, et donc il suppose même qu'on ouvrirait vers la zoophilie.
Si je vous dis que vous avez réussi la synthèse hautement improbable entre Michel Houellebecq et Philippe Solers, ça vous choque, ça vous dérange? Parce que vous les citez tous les deux dans votre roman.
Oui, bien sûr, oui. Ben pourquoi pas?
Ça vous va? Parce qu'à le côté, vous inquiétez, vous traitez le transhumanisme, d'une certaine manière, à la Houellebecq. Et il y a le fond aussi littéraire, mystique libertin de Philippe Sellers en même temps.
Oui, absolument. Disons que Houellebecq, je pourrais... voir que nous traitons des mêmes questions, en fait, des questions scientifiques et des questions d'avancée biotechnologique, et même la question de l'éternité, puisqu'il a même un livre à travers les clones, je sais plus comment ça s'appelle, c'est
La possibilité d'une île.
La possibilité d'une île, voilà, qui traite de cette question. Et donc, d'une certaine manière, mon scientifique, Nico Paul, qui est spécialiste de la reprogrammation cellulaire, c'est un peu un scientifique que Houellebecq ne renierait pas. Et puis Solers aussi, parce que c'est vrai que lui, moi ce que j'aimais aussi, c'est lui, c'était l'art de la citation. Il faisait convoquer, en fait, dans un seul présent, qui était sa voix à lui, mais toutes les voix qui avaient parlé. Et donc, du coup, c'était déjà une façon de travailler sur le temps. Donc, je ne sais pas si c'est la synthèse, mais en tout cas, ça traverse ces deux univers, oui.
Alors, vous avez eu Solers comme éditeur, il vous a publié vos premiers romans. Comment il était comme éditeur?
Très rapide, très intelligent et très fidèle. C'est-à-dire que on lui donnait un texte, on avait une réponse parfois le lendemain, ou en tout cas 2 ou 3 jours maximum après. Et puis, il comprenait tout de suite, en fait, quelle était l'intention du texte. Et il savait vous en parler avec une grande intelligence. Et puis,
est-ce qu'il était directif? Est-ce qu'il demandait à...
Non, pas du tout.
À qu'on retravaille certains passages, qu'on en supprime ou qu'on en rajoute? Ou vous laissez une liberté totale?
Une liberté totale, oui. Je pense qu'il m'a deux indications. Pour un titre, le premier, il voulait qu'on retravaille. Et puis, un personnage de roman, il souhaitait qu'on change le nom.
Maintenant, vous avez Yannick Hanel comme éditeur dans sa collection Aventure. Vous avez commencé avec lui dans Ligne de risque.
Oui, ça fait longtemps maintenant. Oui. Oui.
Et comment il est comme éditeur par rapport à Philippe Solers?
Eh bien, pareil, je dirais. Je dirais la même chose. Non, c'est vrai. Très fidèle, très intelligent. On a des retours très profonds sur le texte. On a un peu plus retravaillé le texte avec lui. Il y avait une chose ou deux comme ça qu'il a porté à mon attention. Il se trouve que je l'avais fait lire à une autre personne qui m'avait fait exactement les mêmes remarques, donc j'ai comment amélioré les deux passages. Ça portait sur une page à chaque fois, voilà.
Donc La longue vie, c'est le quatrième ouvrage paru dans la collection Aventure de Yannick Hanel chez Gallimard. Est-ce que vous avez lu Rose Vidal, Julien de Kerviller et John Jefferson Selve?
J'ai lu les trois, oui.
Vous avez lu les trois?
Ouais, ouais.
Vous en avez pensé quoi?
C'est trois livres différents, hein, déjà. Mais ce qui m'intéresse, c'est la proposition littéraire. Ce qui est beau, en fait, dans la collection Aventure, c'est le fait de créer un bureau des exceptions, le fait qu'on pense ce lieu-là comme une centrale d'énergie, un lieu de sociabilité où la question de la littérature va être posée à nouveau frais, et encore, où on va mettre la question de la littérature au centre. Alors chacun à leur manière, chacun avec les inventions qui sont les leurs. Les livres voilà, qui ont été publiés déjà dans cette collection sont des exemples et des témoignages de cet amour de la littérature. La littérature comme voie spirituelle, mais aussi comme voie de résistance à l'époque, comme possibilité de s'extraire du marasme.
Merci beaucoup Valentin Rey d'être venu nous parler de votre roman La longue vie chez Gallimard dans la collection Aventure.
Merci.
Cette émission n'aurait pas été possible sans René qui est derrière la vitre et qui assure la sono. Alors je vous rappelle que Radio Aligre va fêter ses 45 ans d'indépendance. La liberté n'a pas de prix mais elle a un coût. Donc je vous invite à aller sur le site et à faire des dons pour nous aider, pour nous soutenir. Parce que la liberté, c'est un combat de tous les jours. Pour notre part, on se retrouve la semaine prochaine avec John Jefferson Selve pour sa matière humaine. Merci beaucoup. Cette émission est encore dédiée à Yves Tanré, auquel on pense très fort. Merci et à très bientôt.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.